Louange et remerciements au Seigneur de ce que ce soit vrai. Et nous pouvons toujours penser à ce qu'il a fait. Pas seulement il y a 4 ou il y a 2000 ans, mais dans notre époque, dans notre temps, dans ta vie et dans la mienne. Ce soir aussi, nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici et nous faisons confiance au Seigneur de ce qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse mettre sa parole devant nos yeux, sa parole sous laquelle nous devons tous nous incliner. Il n'y a pas d'homme qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Tout homme qui veut subsister devant Dieu doit s'introduire dans sa parole, il doit s'y soumettre. Et c'est en cela que nous voyons si nous pouvons nous incliner sous la main puissante de Dieu. On le dit très souvent avec des paroles. Qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je m'incline devant toi. Mais quand sa parole est alors prononcée, nous ne nous inclinons pas, mais nous dévions plutôt. Cela peut m'arriver aussi bien qu'à toi, cela peut nous arriver à tous. Mais je crois que nous avons atteint le point où nous devons cesser avec les amusements et devenir sérieux. Nous dire que c'est ce que Dieu exige de nous et qu'il est digne que nous nous mettions à sa disposition afin qu'il puisse mener l'œuvre à l'achèvement. Vous savez que je dois aborder certaines choses ces jours, les aborder point par point. Et j'espère qu'elles seront écoutées par nous qui sommes ici et aussi par ceux qui ne sont pas ici. Et j'espère devant Dieu que personne n'aura l'impression que d'ici devant, des coups sont donnés. Si l'aide ne peut pas être apportée, alors nous pouvons plier bagage. Ce lieu n'est pas là pour que quelqu'un puisse vouloir quelque chose de quelqu'un d'autre, mais pour nous mettre tous devant le miroir de la parole et nous regarder. Et si possible, ne pas avoir de mauvaise mémoire, une mauvaise mémoire, et repartir en oubliant à quoi nous avons ressemblé. Mais nous voulons y mettre un bon regard et dire, Seigneur, c'est ta parole, et nous voulons nous y soumettre. Un jour, une précieuse sœur que l'on ne peut qu'apprécier et respecter a dit « Le droit que me donne la parole est mon droit ou mes dû. » Il peut bien sûr arriver que nous nous arrogions certains droits au-delà de la loi. Car si les gens étaient satisfaits du droit de la loi, cela se passerait encore à peu près bien, ou bien d'une certaine manière bien. Mais ils n'en sont pas satisfaits, et c'est là la grande misère. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, dans ces réunions, nous voulons connaître la volonté de Dieu, et nous voulons avoir aussi savoir comment les choses vont continuer. Nous voulons considérer comment les choses se sont passées, comment Dieu a béni et depuis quand les choses ne sont plus comme nous en avions l'habitude. Et peut-être que nous et d'autres, nous devrons réfléchir à certaines choses. Et je pense que tous ceux qui sont sincères le feront. Je lis de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Verset 16. Toute écriture inspirée par l'Esprit de Dieu est aussi utile à l'instruction et à la persuasion, à l'amélioration et à l'éducation dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, pleinement équipé pour toute bonne œuvre. C'est pour cela que les saintes Écritures ont été données, pour que l'homme de Dieu soit équipé pour toute bonne œuvre et puisse être présenté comme parfait devant Dieu. Humainement, nous aurons certainement des défauts, mais l'homme spirituel, le divin en nous, doit parvenir à la perfection. Il y a quelques passages bibliques que nous allons lire. Le premier, pour avoir la suite d'hier soir, nous lisons de Luc chapitre 2, de la prière que Siméon a prononcée sur le Seigneur lorsque l'enfant Jésus a été consacré. Luc chapitre 2, peut-être à partir de la deuxième partie, dans le verset 34. Verset 34, deuxième partie. Sachez-le, celui-ci est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et aussi un signe qui suscitera la contradiction. Verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de plusieurs cœurs soient manifestées. Nous avons entendu de la part de Frère Branham la parole bien connue d'Hébreux chapitre 4, verset 2, presque aussi souvent que celle d'Hébreux chapitre 13, verset 3. Chaque fois qu'il a parlé du don de discernement, et même s'il n'a été que conduit dans ce sens, il l'a toujours mis en relation avec le don de discernement. Du moins, lorsqu'il parlait quelque part pour la première fois et qu'il utilisait ce ministère, il l'a toujours fait en référence où il s'est toujours référé avec Hébreux 4, verset 12. Et je dois dire que dans la traduction anglaise, il y a effectivement le mot « discernement », ce qui n'est pas le cas en allemand. Je lis maintenant du verset 12 d'Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, articulation et moelle, et elle est un juge. Elle est un juge sur les intentions et les pensées du cœur. Ici, en anglais, il y a le mot discerne, mais en allemand, c'est juge. Les intentions et les pensées du cœur. Curieusement, ce n'est pas dit que c'est l'Esprit de Dieu, mais la parole de Dieu par laquelle les pensées, les intentions des cœurs sont rendues manifestes. Et c'est le point que nous devons, c'est à ce point que nous devons prêter attention. Et dans ce contexte, il est également écrit, car la parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, et elle pénètre et sépare, et elle est un juge des pensées du cœur. Selon notre raisonnement, nous dirons que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses ici. Cela est aussi vrai. Mais l'Esprit de Dieu les fait sur la base de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu prend la parole. Et pendant que la parole est apportée par l'Esprit, les pensées des cœurs sont révélées. Et tout homme qui veut subsister devant Dieu se soumettra à ce test de la parole, à cette épreuve de la parole. Et vous savez que nous avons très souvent entendu l'expression selon laquelle ce qui importait à Dieu n'était pas seulement qu'un prophète quelconque se présente. Et nous avons déjà eu des personnes ici qui se sont véritablement présentées comme des prophètes. Et aujourd'hui, nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte. On pourrait presque utiliser l'expression qui n'a pas sa place ici. Mais certaines existences folles, nous devons avoir honte d'avoir donné la chair à de telles personnes. Et elles ne nous ont vraiment apporté rien d'autre que la confusion. Mais un prophète de Dieu, un prophète parole qui n'apporte pas la confusion, mais qui fait, qui l'a fait sortir. Un prophète de Dieu qui n'apporte pas la confusion, mais qui l'a fait sortir. Et qui fait entrer la clarté de la vérité de la parole de Dieu. Tout homme qui apporte la confusion est lui-même confus. Et celui qui a la clarté de Dieu apporte la clarté. Et nous savons qu'il est écrit dans les prophètes, celui qui a ma parole, celui à qui ma parole a été accordée, proclame ma parole. Dans Jérémie 23, verset 28. Et après cela, il est écrit, qu'y a-t-il en commun entre la paille et le blé? Dans Jérémie 23. Il faut effectivement distinguer ces choses. Et maintenant, il est important de ne pas tout jeter en bloc. Les dons et les services et ainsi de suite. Loin de là, loin de nous cette pensée. Mais nous devons prier Dieu du fond du cœur de toujours placer le critère de la parole dans notre main de foi. Et de nous donner de tout cœur la grâce de pouvoir toujours la discerner. Frère Branham applique le critère suivant lorsque quelqu'un doit être corrigé. Et il dit, ou le Seigneur dit par lui, que les hommes qui sont en règle, qui sont en ordre avec Dieu, accepte de tout cœur et avec reconnaissance une correction. Et les personnes qui s'énervent lors d'une correction et sortent d'eux, si on peut le dire ainsi, ces personnes doivent expérimenter l'aide de Dieu encore une fois. Ici, dans la prédication, l'ordre dans l'Église, Je lis à la page 17. Permettez-moi de répondre à cela dans l'ordre. En ce qui concerne l'ordre dans l'Église, nous voulons essayer d'agir de la manière dont nous comprenons les instructions données lors de la consécration de la nouvelle chapelle. C'est correct. Vous faites ce qu'il faut. Vous faites ce qui est bien. Je suppose que cela vient des diacres, car il s'agit d'une tâche des diacres. De ce fait, les gens se sont souvent mis en colère contre nous. En colère contre moi et contre tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas chez une personne qui fait cela. Elles ne sont pas en ordre avec Dieu, car l'Esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ et à la maison de Christ et à l'ordre de Christ. Si un homme, une femme, un enfant, des parents ou toute autre personne à qui l'on dit quelque chose deviennent méchants, c'est alors que nous comprenons que quelque chose ne va pas chez eux. Nous voulons vraiment que tous ceux que nous pouvons atteindre dans cette assemblée, nous voulons vraiment atteindre tous dans cette assemblée. Mais si cela ne fait que créer des difficultés, alors c'est une épine. Ou, comme nous disons en allemand, une manière de parler, c'est un lapin dans un tas de bois. Une telle personne ne va pas bien. Quelqu'un qui ne se laisse pas corriger n'est pas en ordre avec Dieu. Que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, si la correction est nécessaire, elle doit être donnée et nous devons l'accepter. Le plus triste dans tout cela, c'est que les personnes les plus spirituelles ont le plus grand mal à suivre une instruction. Car elles sont tellement spirituelles qu'elles sont au-dessus de tout. Et ce spirituel doit cependant être mis entre guillemets. Ici, le frère Branham dit dans la prédication « L'ordre dans l'Église », nous l'avons déjà cité récemment, il dit ici, en référence aux dons et aux porteurs de dons, il dit que là aussi, une correction est nécessaire. Et aussi de telles personnes. Et cela me concerne, comme je l'ai dit. Et cela nous concerne tous. Si une correction est nécessaire, elle doit être faite. Et si la parole de Dieu est le critère, alors chacun doit s'y plier. Et tout esprit qui ne se soumet pas à la parole de Dieu n'a pas l'esprit de Dieu. On peut alors se comporter de manière aussi spirituelle que l'on veut. Cela ne veut rien dire. Il est dit ici, si donc quelqu'un écrit un message donné par le parler en langue ou la prophétie et le pose ici sur la chair, alors avant le service divin, le « ainsi dit le Seigneur » doit être lu par le pasteur aux personnes qui ont parlé et interprété. Si cela s'accomplit exactement comme le dit l'interprétation, alors nous levons les mains et remercions Dieu pour son esprit qui est parmi nous. Mais si cela ne s'accomplit pas, ne le faites plus jusqu'à ce que le mauvais esprit soit sorti de vous. Alors, si ce qui a été dit ne s'accomplit pas, alors que ceux qui ont parlé ne le fassent plus jusqu'à ce que l'esprit soit sorti d'eux. Dieu ne ment pas. Il est la vérité depuis toujours. Et voici le critère de mesure. Et c'est pourquoi nous voulons et devons entrer dans la parole de Dieu. Et croyez-moi, de manière inattendue, j'ai vérifié très brièvement, mais je ne voulais pas nécessairement toujours lire des prédications de Frère Branham pour ne pas donner l'impression de remâcher. Car vous les savez tous, vous les avez tous à disposition et vous pouvez les lire vous-même. Et que s'est-il passé? J'ouvre ici le sermon, le troisième exode. Et je lis effectivement quelque chose à la page 16 et 17. Et cela m'est allé droit au cœur. Et je me suis dit en moi-même, il faut quand même que tu sondes cette affaire dans l'Ancien Testament. Et l'un des passages de Moïse, je le connais bien, mais l'autre, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, cherche le passage que tu ne connais pas. Et je peux vous dire, je n'ai pas du tout eu besoin de le rechercher. J'ai simplement ouvert une quantité de pages et je l'ai eu devant moi d'un coup, d'un seul coup, sans devoir le chercher. C'est ainsi que je l'ai reçu de la main du Seigneur. Je ne mens pas, c'est la vérité. Et je l'ai simplement reçu de la main du Seigneur. Et à ce moment, j'étais encore un peu fatigué ou abasourdi, mais à ce moment-là où je l'ai reçu, j'ai exactement su, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es conduit ici sans beaucoup de peine et sans souci. Je lis à partir de la page 16. Mais c'est surtout la page 17 qui m'intéresse. Comme Dieu l'a dit, si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, écoutez-le. C'est ainsi. Mais si sa prophétie est erronée ou fausse, alors Dieu ne peut pas être erroné ou faux. Il est infini, infaillible, tout-puissant. Il ne peut pas être faux. Et nous reconnaissons que Dieu ne peut pas être faux. Lorsque le dernier prophète qui était ici il y a un an m'a appelé d'Inde pour me dire que Dieu lui avait révélé que quand il allait fouler le sol européen, alors le plus grand réveil que le monde n'ait jamais vu devait commencer. Et vous savez ce qui a été réveillé quand il est venu. Et ici, nous poursuivons la lecture. Il est infini, Dieu, infaillible, tout-puissant, et il ne peut pas être faux. Mais quand un homme parle, alors cela est manifeste. Si l'homme prononce ses propres paroles, alors cela échouera, cela faillira. Mais s'il prononce la parole de Dieu, alors cela ne peut pas faillir, car c'est Dieu qui parle. Alors son inspiration vient de Dieu et elle devra être correcte. C'est ainsi que Dieu l'a dit et qu'elle a été prononcée. Un changement, un tournant doit avoir lieu. Et le changement ne viendra pas tant que les choses ne seront pas appelées par leur nom. Et si elles ne sont pas claires la première fois, elles le seront la deuxième. Et si elles ne le sont pas la deuxième, elles le seront la troisième fois. Et si quelqu'un passe outre la troisième fois, comme si Dieu n'avait pas parlé ou n'avait rien à nous dire, une telle personne devra probablement continuer à suivre son propre chemin tout le reste de sa vie. Je poursuis brièvement ma lecture. C'est ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament. Il disait, s'il ne parle pas en accord avec la loi et les prophètes, c'est parce qu'ils n'ont pas de vie en eux. Pas de vie en eux, c'est vrai. Ils doivent parler en accord avec la loi et les prophètes. Les prophètes et tout le reste doivent être en accord avec la parole. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est faux. Ainsi, toute la parole, l'Ancien et le Nouveau Testament, la loi et les prophètes, tout doit être en accord. Alors, cette parole est une parole de Deutéronome que nous connaissons tous bien. Je vais le lire de la Bible pour que vous puissiez l'entendre exactement. Deutéronome chapitre 18, verset 21. Mais si tu penses en toi-même, à quoi reconnaîtrons-nous la parole que le Seigneur n'a pas prononcée? Verset 22. Sache que si un prophète annonce ce qu'un prophète, sache que si ce qu'un prophète annonce au nom du Seigneur n'arrive pas, ne s'accomplit pas, c'est une parole que le Seigneur n'a pas prononcée. C'est par présomption que le prophète l'a prononcée. Tu n'as rien à craindre de lui. Amen. C'est en fait une chose très facile. Lorsque quelque chose est annoncé, et vous savez très bien que c'est surtout dans la période du début de 1979, au mois de mai, du début jusqu'au mois de mai de l'année 1979, que les plus grandes choses ont été annoncées ici dans l'Assemblée locale de Krefeld. Note du traducteur. Des jours ont été mentionnés ici, puis raccourcis, et tout n'était que des supercheries. Rien de tout cela n'était vrai, sinon cela se serait réalisé. Et tous ceux qui sont concernés devront s'incliner et se courber dans la poussière et la cendre, et il n'y aura pas d'autre alternative. La deuxième parole, ou d'abord la citation de la page 17 de la prédication de Frère Branham, puis vient un exode. Et nous le voyons, afin que les gens eux-mêmes puissent remonter le cours du temps et voir que la chose est maudite. Ils prennent à nouveau un lingot et un beau manteau babylonien. C'est ce qui amène la malédiction parmi le peuple. Lorsque les hommes essayent d'y insérer leurs propres idées, sur quelque chose. Retenez ici le terme manteau babylonien. N'oubliez pas la malédiction, le mot malédiction et la pensée, y insérer ses propres pensées. Et cela a été dit dans le contexte de la sortie du peuple d'Israël, puis en référence directe avec l'entrée dans le pays promis sous Josué, qui a soudain constaté que la chose ne marchait plus. Et il dit, un instant, que s'est-il passé? Dieu n'est plus au milieu de nous. Il y a une impasse et les ennemis ont pris le dessus sur nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il est dit plus loin dans la citation, nous devons rester avec cette parole. Le commandement de Dieu était de ne rien toucher dans cette ville maudite. Ne touchez rien, laissez tout. Mais Achan pensait qu'il pourrait prendre avec lui ce lingot d'or et vivre à l'aise, comme le reste du monde, avec ce beau manteau babylonien. Oh, voyez les Achan dans le camp. Mais la chose est maudite et elle demeure maudite. Elle est maudite depuis le concile romain de Nicée. Depuis lors, elle est maudite. Cependant, Dieu a laissé que la mesure de la méchanceté puisse se remplir jusqu'à ce que le temps des Amorites soit écoulé. Et maintenant, vous tous qui avez une compréhension spirituelle, souvenez-vous, je dis toujours compréhension spirituelle. Ici, il s'agit d'un contexte très particulier. Et c'est le passage biblique que j'ai ouvert du premier coup d'œil. Ce passage, c'est Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Nous pourrions ou devrions en fait lire beaucoup de choses, mais je voudrais en dire et en lire le moins possible tout en disant et lisant le plus possible à partir des différents passages bibliques afin de rendre la chose claire. Josué chapitre 7, verset 10. Le Seigneur répondit à Josué, « Lève-toi, pourquoi es-tu couché sur ta face ?» Verset 11. Israël a péché, car ils ont d'une part transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, et d'autre part, ils se sont appropriés une partie des biens dévoués à l'interdit. Ainsi, ils ont commis un vol et ont en plus caché ce qui avait été volé et l'ont mis parmi leurs propres ustensiles. Verset 12. C'est pourquoi les Israélites ne peuvent plus tenir tête à leurs ennemis, mais doivent prendre fuite devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes tombés sous le coup de l'interdit. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Quelque chose dévoué à l'interdit a été emporté. Et l'interdit s'est abattu sur tous. Ce que nous ne faisons pas selon la volonté de Dieu, c'est mieux exprimé ainsi. Ce que nous ne faisons pas selon la volonté de Dieu, ou ce que nous faisons contre la volonté de Dieu, pour l'exprimer de la meilleure manière, retombe sur nous tous. Et il est dit ici, verset 13 de Josué 7, « Lève-toi, que le Seigneur, que le peuple, pardon, se sanctifie, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il y a des biens dévoués à l'interdit au milieu de toi, Israël. » Tu ne pourras pas résister à tes ennemis tant que vous n'aurez pas ôté les biens dévoués à l'interdit du milieu de vous. Certainement, vous avez déjà entendu dire, oui, si quelqu'un est sous le coup d'un interdit, Il y a des choses dont la personne n'arrive pas à se libérer. Et il y a certaines choses qui sont sous le coup de la malédiction parce qu'elles sont maudites par Dieu et parce qu'elles constituent pour le peuple de Dieu un obstacle direct qui empêche d'aller de l'avant. Dieu ne s'était pas-il révélé puissamment? Les victoires ne s'étaient pas-elles succédées? Josué n'avait-il pas vu la main de Dieu et les actions puissantes du Seigneur avec ceux qui avaient traversé le Jourdain? Bien sûr que oui, mais maintenant, il s'est passé quelque chose et je pense que nous devons y faire attention. Et je lis à partir du verset 19 de Josué 7. Verset 19. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne donc gloire au Seigneur, le Dieu d'Israël, et fais une confession ouverte devant lui. Avoue-moi ce que tu as fait. Ne me cache rien. » Verset 20. Akan répondit à Josué, « En vérité, j'ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai agi de telle et de telle manière. » Verset 21. « J'ai vu parmi le butin un beau manteau babylonien. À cela, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Et j'ai eu envie de ces choses et je les ai pris. » Vous savez ce qui s'est passé. Le Seigneur avait ordonné que personne ne s'approprie les biens dévoués à l'interdit. Il ne devait rien toucher. Telle était la parole du Seigneur. Si Dieu n'avait rien dit, alors chacun aurait pu faire ce qu'il voulait et rien ne se serait passé du tout. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit, « Prenez de l'or et de l'argent en toute quantité. » Et les Saintes Écritures disent que Dieu a disposé les Égyptiens et qu'ils ont donné aux Israélites volontairement de grandes quantités d'or. Écrit dans Exode 12, verset 35-36. C'est une chose à peine croyable humainement, mais Dieu l'a dit et c'est ce qui s'est passé. Dieu dirige les cœurs comme les cours d'eau. Même les non-croyants ne peuvent pas faire autrement. Si Dieu le veut ainsi, alors ils doivent le faire. C'est ainsi avec Dieu. C'est lui qui tient chaque homme dans sa main et qui peut faire ce qu'il veut. Il a été dit ici que rien ne devait être emporté et que rien ne devait être touché. Une chose qui nous donne à réfléchir et que nous devons prendre en compte est la chose suivante. Tout d'abord, le manteau babylonien. D'où venait ce manteau babylonien? Qu'est-ce qu'il faisait là? Le peuple n'était pas à Babylone. Ils n'étaient pas au bord du fleuve Euphrate, mais ils étaient ici, dans le territoire. Ils étaient déjà entrés dans le pays de Canaan. Mais d'où et pourquoi alors ce manteau babylonien? Vous savez que le mot Babylone est synonyme de toute confusion qui peut exister. Babel signifie les portes de Dieu. Mais Babylone signifie confusion. Voyez-vous, les deux mots sont bien similaires, mais les deux peuvent être proches l'un de l'autre et pourtant être aussi éloignés l'un de l'autre que le ciel et la terre. Deux choses peuvent être si proches l'une de l'autre et pourtant être si éloignées qu'elles ne pourront jamais s'harmoniser. Ce manteau babylonien servait à enveloppé les autres choses de manière si belle, afin qu'elles ne soient surtout pas visibles. Cet homme n'a pas cherché un beau papier pour emballer un beau paquet. Il a pris le manteau babylonien et a enveloppé la chose à l'intérieur. Et tout, ça peut être l'or et l'argent comme cela est décrit ici. Si cela est enveloppé dans un manteau babylonien, alors il ne vient que de l'interdit. La malédiction, la confusion, l'immobilisation parmi le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous poser la question et la parole de Dieu doit nous répondre. Je ne peux pas y répondre, mais Dieu doit le faire à partir de sa parole. Car ma réponse ne serait qu'une réponse parmi beaucoup d'autres et elle serait humaine. Et cela ne sert à rien dans le royaume de Dieu. Et encore moins de défaire un peu le manteau babylonien et de le déballer un peu. Il faut parfois déballer complètement les choses. Et alors, bien sûr, ce n'est pas du tout agréable. Du moins, pas quand on doit se frapper la poitrine à soi-même et se sentir très coupable. Alors, c'est d'autant plus difficile. Mais ici, il ne s'agit pas que moi ou quelqu'un d'autre soit épargné. Il s'agit que Dieu arrive à ce qui lui revient. Et nous savons bien qu'il ne s'agit pas d'un homme. Nous l'avons souvent dit, les choses spirituelles ne viennent pas d'un homme, mais elles viennent soit d'un côté, soit de l'autre. Et il ne peut en être autrement. Mais c'est justement là où la malédiction et l'interdit s'abattent sur quelque chose, qu'il y a toujours une inspiration en jeu, chaque fois. Vous pouvez le voir lorsque quelqu'un prononce une malédiction. C'est en quelque sorte une inspiration. Nous savons qu'elle vient de l'autre côté. Mais ce ne sont pas des personnes ordinaires qui le prononcent, mais des personnes qui sont en quelque sorte sous une autre influence. Cependant, comme nous l'avons lu, il peut arriver que l'ennemi s'infiltre, qu'il s'avance et que des choses qui n'ont pas leur place et qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, que ces choses entrent dans le royaume de Dieu. Et je pense que si la parole suivante est écrite dans le prophète Ézéchiel, alors nous avons un droit de le lire et le droit aussi d'y réfléchir. Ici, il est dit au chapitre 13 d'Ézéchiel, « Mais toi, fils de l'homme, tiens-toi contre les filles de ton peuple qui se prennent pour des prophétesses à leur guise. Prononce-toi contre elles. » Et dit, verset 18, « Ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Malheur à vous, femmes, qui cousez des bracelets magiques pour tous les poignets et qui fabriquez des voiles pour les têtes des gens de toute taille. » Cela est dit dans un langage imagé et prophétique. Je vous le demande, mes sœurs, ne m'en voulez pas. Mais pourquoi y a-t-il le mot « qui se prennent pour des prophétesses » Malheur aux femmes. Et nous retournons, si le Dieu veut, nous retournerons demain soir au jardin d'Éden. Et vous verrez qui a été séduit par Satan et comment la réaction en chaîne s'est ensuite poursuivie.
et vous verrez que dans toute cette machination, il n'y avait que des femmes et qu'elles ont pris quelques hommes comme quelques esclaves, comme leurs hommes de main. C'est ainsi que la chose s'est passée et pas autrement. Et c'est en cela que tous doivent s'incliner et se repentir dans le sac et la cendre devant le Dieu Tout-Puissant. La chose n'est pas différente. Et quand il est écrit ici au verset 18, « Ainsi a parlé Dieu le Seigneur, malheur à vous femmes qui cousez des bracelets magiques. » Mais pas seulement des bracelets, mais des bracelets magiques. Si quelqu'un se comporte comme une prophétesse, Quand se comporte comme une prophétesse à sa guise, alors ce n'est pas seulement un bracelet, c'est un bracelet magique. Et il s'agit d'un bracelet magique. S'il s'agit d'un bracelet magique, alors c'est la mort. Et s'il s'agit d'un envoûtement, alors cela doit être brisé au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous poursuivons la lecture. Vous, femmes qui cousez des bracelets magiques pour tous les poignets, verset 18. Quelle que soit la taille de quelqu'un, quelle que soit la grosseur de la tête, pour toute tête, pour tout, qu'il s'agisse d'une tête intelligente, d'une tête stupide, d'un grand ou d'un petit, elles ont toujours une taille appropriée. Elles peuvent dire à chacun ce qui convient à sa tête, elles peuvent lui dire, pensez-vous que l'écriture fait des mots vides? Pensez-vous que Dieu s'amuse ici? Dieu parle sérieusement et encore sérieusement. Il veut nous faire comprendre consciemment ces choses. Il veut rompre l'envoûtement, lever la malédiction et faire sortir son peuple de la liberté. Et il est dit ici au verset 18, pour tous les poignets. Bien sûr, chacun bouge déjà la main. Et là, on prend déjà la taille qui est appropriée. Ne vous inquiétez pas. La tête aussi, le bon voile pour chacun, bien sûr. On met ensuite le voile dessus et les gens sont alors couverts. Ensuite, on les tient par la main car il est parlé ici des poignets. Et puis, on remplit les têtes selon la mesure appropriée et personne ne s'y retrouve plus. C'est un manteau babylien dans lequel tout a été enveloppé. Et qu'est-ce qui en est sorti? Une grande catastrophe. Le Dieu Tout-Puissant est capable, comme au jour de Josué, d'accorder sa grâce et de donner la liberté. Amen. Alors, il est dit ici ensuite au verset 18, « Pour capturer les âmes, vous voulez tuer des âmes qui appartiennent à mon peuple et vous conservez des âmes en vie à votre profit. » Verset 18b. Voilà la chose. Quiconque est d'accord avec eux, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais quiconque n'est pas d'accord avec eux est traité de tous les noms. Il ne se reconnaît plus lui-même. Il ne sait même plus s'il ressemble encore à un être humain. Et c'est à cela que vous pouvez reconnaître le péché de la sorcellerie. Un homme de Dieu et une chose de Dieu est sans considération de personne. Tu ne fais pas le tri à droite ou à gauche, à haut ou en bas. Tu t'en remets à Dieu et qu'est-ce qui a été fait? Tout a bien été trié. Oui, bien sûr. Vous conservez des âmes en vie à votre profit. Bien sûr. Et il est dit ensuite au verset 18, « Vous avez tué des âmes qui appartiennent à mon peuple. Combien ont été emportées qui appartiennent au peuple de Dieu? Ces liens doivent être défaits et ces voiles doivent être déchirés au nom du Seigneur. Et les gens doivent sortir libres et Dieu nous accordera à tous le pardon et la grâce. Amen. » On pourrait continuer à lire ici, car bien des choses sont écrites. Voici la dernière partie du verset 19. Ézéchiel 13, verset 19. Ce qui me donne naturellement à réfléchir. Il est dit ici, au verset 19, verset B. Trompant ainsi mon peuple qui écoute volontiers les mensonges. Il n'y a jamais eu d'époque où l'esprit de mensonge et de calomnie et tout ce qui y est lié soit aussi courant que dans cette époque. Verset 19. Et maintenant, verset 19, la suite. En gardant en vie d'autres âmes qui ne doivent pas rester en vie, trompant ainsi mon peuple qui écoute volontiers les mensonges. Et là, et à moins que les gens ne le reconnaissent, et cela ne saurait tarder, celui qui ne le comprendra pas passera à côté du but, car il continuera à avancer sous l'influence de cet esprit. Et les gens doivent être arrachés de cette influence. Je le répète, nous ne sommes pas là pour juger. Et si quelqu'un dit à l'autre, oui, ceci, cela, cessez d'en parler entre vous. Mais nous voulons prier pour que Dieu envoie sa parole afin que ces personnes soient aidées. Car toi et moi, nous devons aussi être aidés. Pourquoi devrions-nous ouvrir la bouche sur les autres alors que nous-mêmes, nous avons besoin de la délivrance, de la solution, de l'aide de Dieu? Mais Dieu nous aidera tous ensemble. Verset 20, il est écrit, « C'est pourquoi ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Sachez que j'agirai maintenant contre vos bras et les magiques avec lesquels vous capturez des âmes. » Les âmes ne sont pas seulement prise par des bracelets. Ce n'est pas seulement un simple cordon que n'importe qui peut couper. Il est écrit ici, c'est pourquoi ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Sachez que j'agirai maintenant contre vos bracelets magiques avec lesquels vous capturez des âmes. Et je les arracherai de vos bras. Amen. Et je laisserai les âmes que vous capturez s'envoler librement comme des oiseaux. Amen. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et nous la croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Que Dieu déchirera ces liens et fera s'envoler de la cage comme des oiseaux, les âmes appelées à la liberté. Amen. Verset 21. Je déchirerai aussi vos voiles et je délivrerai mon peuple de vos mains. Et ils ne seront plus comme proie sous votre pouvoir. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Amen. Savez-vous que de tels hommes tombent sous le pouvoir de telles personnes? Des hommes qui ne parlent pas de la part de Dieu lient les autres à eux et exercent un pouvoir sur eux comme l'Église catholique. Et c'est le même esprit, le manteau babylonien. Et il faut que la chose soit déchirée et que la liberté des enfants de Dieu soit proclamée au nom du Seigneur. Pour tous ceux qui ne font que entendre, que l'entendre et qui veulent l'accepter, pour eux seulement, la délivrance pourra être manifestée. Et vous savez que j'aime tout le monde de tout cœur. J'aime même ces gens de tout mon cœur. C'est cela qui est étrange. Vous direz peut-être, frère Franck, n'est-ce pas c'est, la chose est contradictoire? Non, seulement pour la tête. Ce n'est pour la tête que c'est contradictoire, mais pas pour le cœur. Quand notre Seigneur a dû réprimander Pierre, avait-il quelque chose contre Pierre? Non, absolument rien. Rien n'avait changé du tout dans la relation entre Pierre et le Seigneur. Et ma relation avec ces personnes, de telles personnes, n'a pas changé. Mais je n'ai rien à voir avec l'esprit auquel ils sont soumis. Amen. Voilà la différence. Et je crois que nous tous qui voulons subsister devant Dieu, et à cela, j'y inclus aussi le reste qui n'est pas présent ici ce soir. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir venir à lui et qu'il prenne à nouveau prenne soin de nous et qu'il puisse à nouveau nous bénir. Maintenant, vous pouvez dire, oui, maintenant tu as probablement trouvé quelqu'un pour sortir librement. Je ne dis pas que je veux sortir librement de moi-même. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre doit rester coincé quelque part. Je veux simplement dire que je suis aussi coupable que tous les autres et que nous pouvons tous recevoir la main du Seigneur et sortir librement par la grâce de notre Dieu. Amen. Car ce qui est juste pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et nous dépendons tous de la grâce de Dieu. Et ce qui est arrivé hier à quelqu'un d'autre peut m'arriver, peut t'arriver demain. Et nous ne sommes que des êtres humains oublieux et faibles, c'est vrai. Mais Dieu est le Seigneur. Et le Seigneur parle à son peuple et dit, « À quoi reconnaîtrez-vous que moi, le Seigneur, j'ai parlé ?» Et il dit, « Si ce qui est dit n'arrive pas et ne s'accomplit pas, alors moi, le Seigneur, je n'ai pas parlé. » Et je vous le dis, quand Dieu, le Seigneur, parle, il y a la grâce, l'amour, le pardon, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de haine, pas de meurtre, pas d'assassinat, pas de calomnie, pas de trahison et toutes ces choses. Amen. Là où il y a l'action de Dieu, là est le ciel sur la terre. Mais l'ennemi a su que Dieu préparait quelque chose de spécial. Aujourd'hui, il doit comprendre, l'ennemi doit comprendre que Dieu va mettre à exécution le projet qu'il a conçu. Amen. Il en est ainsi et pas autrement. Et nous faisons confiance à notre Seigneur de tout notre cœur. Il fera en sorte que tout se passe bien. Loué et glorifié soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te remercions ensemble ce soir. Ce soir aussi pour ta puissante parole de vérité. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as commencé une œuvre et que tu l'accompliras. Amen. Seigneur, nous voyons que ce n'est pas la première fois que Satan fait une tentative en ces jours, mais il en est été de même autrefois, dans les jours d'autrefois. Car Satan a toujours cherché à détruire ton œuvre et détruire ce que tu as établi, Seigneur. Et c'est ce qu'il a essayé de faire ici aussi. Mais tu es le Seigneur au-dessus de tout. Gloire à ton saint nom. Et nous commandons à Satan. Il est démasqué en cette heure du soir. Amen, par ta parole sainte et précieuse et vraie et éternellement valable. Alléluia, gloire à notre Dieu. Il est le vainqueur de Golgotha. Nous lui donnons gloire. Et toute puissance des ténèbres est brisée en cette heure au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Seigneur, nous te remercions de ce que tu accordes la clarté à ton peuple. Et pas seulement aujourd'hui, mais nous voyons dans ta parole que tu en as toujours été capable. Gloire à ton merveilleux nom. Ô Seigneur, que pouvons-nous te dire? Nous te disons merci, Seigneur. Ce n'est pas de nous que cela est venu, mais c'est ta grâce. Ta bouche a parlé et tu peux tout rétablir, Seigneur. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration à ton merveilleux nom. Seigneur. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Personne n'a besoin de quitter ce lieu désespéré, Seigneur. Mais nous sommes liés à toi parce que nous croyons en tes paroles. Alléluia. Et ceux qui étaient captifs sont devenus libres. Alléluia. Gloire à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen.